Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir à tout le monde, merci d'être à l'écoute de 48FM pour cette première émission d'un livre sur le zinc, une nouvelle émission littéraire en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère, en direct ce soir du bar Le Commerce Amande, que l'on remercie d'ailleurs de nous accueillir. Alors une émission aujourd'hui qui va être consacrée à la rentrée littéraire avec une partie de notre ancienne équipe de Par le bout de la lorgnette avec Pauline toujours présente, salut Popo.
Salut tout le monde.
Nico qui a délaissé quelques instants sa caravane des libertés pour nous rejoindre, salut Nico.
C'est exact, salut tout le monde.
Valérie qui a délaissé quelques instants le comptoir pour nous rejoindre, salut Valérie.
Ben, le comptoir est pas loin donc salut.
Salut, et Claire de la médiathèque départementale de Lozère qui est là, salut Claire.
Bonsoir à tous.
Alors il y a Marlène qui n'est pas loin aussi que l'on entendra tout à l'heure en fin d'émission. Alors concernant cette rentrée littéraire, on a écrit à plusieurs maisons d'édition hein, qui nous tiennent à cœur. Certaines nous ont répondu et nous ont envoyé des romans, donc on va vous présenter une liste non exhaustive de romans de rentrée littéraire. Pour commencer, une maison d'édition que l'on aime beaucoup dans cette émission littéraire de Par le bout de la lorgnette, qui est devenue un livre sur le zinc, c'est les éditions Métellier avec ce livre de Luis Sepúlveda, Histoire d'une baleine blanche. Alors, Nico et Valérie, vous l'avez lu, ce roman qui parle donc, comme son nom l'indique, d'une baleine blanche voguant au large de la Patagonie. La Patagonie, qui est une région d'Amérique du Sud séparée entre l'Argentine et le Chili par la cordillère des Andes. Voilà, c'est pour nos auditeurs, on est précis. Désolé pour ton téléphone. Léa. Ça marche toujours, super. Cette baleine blanche, selon la mythologie, est chargée de protéger les morts mapuches, c'est des aborigènes du Chili et d'Argentine, puis lorsque la fin des temps sera venue, de guider toutes les âmes au-delà de l'horizon. Mais c'est avant tout que l'homme décide de chasser les baleines, Nico.
En fait, ça t'embête qu'on fasse une chronique. Tu l'as fait pour nous.
Alors cette année, j'ai décidé de présenter les scénarios des livres.
D'accord, non. Et bon, maintenant, on va faire un duel avec Nico pour savoir qui parle en premier. Shifumi. J'ai gagné, je présente l'auteur.
Alors, ok, vas-y, présente l'auteur.
Je tiens à vous dire, vous n'êtes pas là pour présenter les quatrièmes de couverture. Hein.
Ok, sinon, Nico, à toi.
Merci.
Bon, tu pourrais nous dire qui est Luis Sepúlveda, s'il te plaît, qui est né en 49 au Chili.
Je te laisse le faire un petit peu après. Moi, je vais parler un petit peu du bouquin que j'ai lu.
C'est pour ça que t'es là, hein.
Ouais. Et en fait, ce bouquin, bon, d'abord, il est très beau en édition Métellier. C'est un livre donc qui écrit gros, donc ça m'a beaucoup aidé,
et
surtout le soir, voilà, et qui est court pour cette rentrée littéraire. Mais surtout, il y a de très très beaux dessins de Joël Jolivet, voilà, qui ressemble un peu à des estampes en fait, voilà, c'est très beau. Ça m'a d'ailleurs même inspiré un petit peu cet été. L'histoire en fait, c'est au large de la Patagonie, une baleine blanche est chargée de protéger les morts mapuches, c'est une tribu. Puis lorsque la fin des temps sera venue, de guider toutes les âmes au-delà de l'horizon. Tout est prévu et écrit dans le temps des mythologies. Cependant, l'homme vit dans un monde où tout bouge. Et au 19e siècle, la chasse de la baleine se développe, comme vous le savez. La baleine blanche, du coup, va devoir défendre son monde immobile, immuable, contre ses prédateurs, en particulier le baleinier Essex, voilà, en un seul mot, pardon, du capitaine Achab. Elle va livrer une guerre sans merci au baleinier et devenir un grand mythe de la littérature. Alors là, dans ce bouquin, en fait, Luis Sepúlveda nous raconte vraiment cette histoire d'un point de vue de la baleine blanche, pas du tout des baleiniers. Du coup, on se sent un peu à la place de la baleine dans cet ouvrage et on se sent même dans l'eau, dans la mer, on se sent dans ces infinies profondeurs, on est baigné par le calme, par les bruits, par les échos, par les sonars. Donc en fait, on est vraiment baigné, c'est vraiment un bouquin qui nous, voilà, qui nous prend, qui nous entoure. C'est ce qui s'est un petit peu passé chez moi. Donc Luis, en fait, il nous raconte cette histoire du point de vue de la baleine blanche et qui nous explique comment elle vit et comment elle s'intègre dans l'ordre du monde. Et surtout, comment elle découvre les hommes.
Les nouveaux hommes ou les anciens, c'est
non, ça se passe au 19e, donc en fait elle découvre les hommes qui chassent, qui pêchent.
Ah, les baleiniers.
Les baleiniers, ouais. Mais pas que, en fait, elle
découvre la mer aussi, hein, ouais. Parce qu'elle voit l'évolution de l'homme qui commence à essayer d'appréhender la mer sur un petit bateau. Elle les admire, le courage qu'ils ont de découvrir cette mer qu'ils ignorent. Et petit à petit, elle les suit vraiment. Elle regarde leur périple à eux. Tout en elle aussi évoluant dans son environnement et dans sa mission qui lui a été confiée.
C'est ça. En fait, elle découvre les autres animaux, elle découvre le monde, elle découvre son univers. Et un jour, elle découvre les hommes. Mais elle les découvre assez étrangement. La première approche est assez belle. Et la deuxième approche, en fait, elle découvre la guerre. Elle découvre comment les hommes, en fait, elle découvre que c'est la seule espèce qui est capable de s'entretuer. Et donc, elle découvre une bataille navale. Donc, elle assiste à une bataille navale. Et là, elle est subjuguée par ce qu'elle voit, par la violence, par l'horreur, quoi, de ce que peuvent proposer les hommes. Mais à travers ce texte, en fait, c'est voilà, la baleine parle des raisons des hommes. C'est vraiment un texte qui est vraiment beau et qui est fort, qui est même très poétique. Puis un espèce de souffle épique dans ce texte, voilà, qui nous prend pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment du grand Sepúlveda. Alors, je vais laisser la parole à Valérie pour nous parler de Luis Sepúlveda.
Les illustrations, c'est de qui?
De Joël Jolivet.
De Joël Jolivet, ouais. D'accord. C'est Sepúlveda qui a travaillé dans les années 80 à Greenpeace, notamment sur des bateaux, où il a coordonné différentes sections de l'organisme. Alors, ça lui a peut-être...
Je ne sais pas si c'est vraiment la principale chose et qu'il a éclairé. Je pense que c'est peut-être aussi le fait d'avoir été condamné à une trentaine d'années de prison sous Pinochet.
28 ans.
28 ans précisément, mais il a fait 2 ans et demi, c'est ça?
Alors, il a fait 2 ans et demi parce qu'il a été aidé par Amnesty International qui l'a fait sortir. Alors, d'ailleurs, il disait à propos de ça, il expliquait, je vais le citer, à la fin d'un procès sommaire du tribunal militaire en temps de guerre à Temuco en février 1975, au terme duquel je fus accusé de trahison de la patrie, conspiration subversive et appartenance aux groupes armés, entre autres délits, mon avocat commis d'office, un lieutenant de l'armée chilienne, est sorti de la salle, nous sommes restés dans une salle à côté et euphorique m'a annoncé que ça s'était bien passé pour moi, j'avais échappé à la peine capitale et j'étais condamné à seulement 28 ans de prison.
Ouf, ça va.
Voilà. Alors c'est aussi celui qui a fait l'histoire de la mouette et du chat qui lui a pris à voler.
Jouer à la petite roulotte.
Tout à fait, l'année dernière, c'est ce que j'allais dire. 2018. C'est un spectacle donc, qu'on avait accueilli avec nos amis de...
C'était la compagnie Bouillonnante.
Voilà. Mais trop fort, hein. T'as bossé, garçon.
J'ai bossé tous les livres, sauf celui de Claire, parce que je savais qu'elle était au top et qu'elle va pouvoir nous en parler.
Ouais, là, tu mets une grosse pression.
Il a aussi écrit Le Vieux qui lisait
des romans d'amour ouais. Ouais.
Qui a quand même été traduit en 35 langues. Peut-être 36, Ludo, tu me corriges.
C'est ça.
Non, c'est vraiment un joli livre. Moi, j'ai été étonnée parce que je m'attendais à des romans de la rentrée littéraire et en fait, j'ai cru qu'on m'avait donné un livre jeunesse. Mais non. Mais oui, mais c'est aussi.
Ouais, moi je l'ai pris aussi comme un livre jeunesse. Hein. J'ai trouvé ça
mais
très
non,
beau.
C'est pour tout, public. C'est beau, c'est juste, c'est plein de poésie. Et n'en déplaise à Melville et son capitaine Achab, c'est beau aussi d'avoir la vision depuis la baleine de ce qui se passe autour. Et ça vraiment, c'est assez nouveau, c'est propre, c'est vraiment bouleversant comme livre. Puis on se met à la place de la baleine, on a envie de lui dire non, arrête, n'y va pas. En même temps, elle est curieuse, on a envie de suivre son épopée. Et puis, il y a aussi tout le côté mythologique de ces femmes, ces vieilles femmes de l'île qui vont dans l'eau pour amener les morts vers l'île où reposeront les âmes. C'est très beau. En fait, ce livre est juste parfait.
Ouais, ça, c'est vraiment très, très important. C'est une nouvelle version, donc c'est Mouchadik, hein, cette baleine blanche. Cette version, en fait, c'est comment sans les baleines blanches, en fait, les âmes des hommes ne pourraient pas... voyager à travers le monde et surtout s'élever quoi. Et donc on est très liés. En fait, je trouve que c'est aussi un bouquin sur l'environnement. Pas beaucoup d'environnement, mais l'importance de la mer et de l'océan et voilà, je trouve que c'est.
Et du coup, c'est pas très très lié à Moby Dick de Melville sur l'histoire.
Il y a beaucoup de liens quand même.
Ouais,
il y a
beaucoup de clins d'œil, mais on peut on peut le lire vraiment sans trop soucier de Moby Dick, quoi. Enfin, sans trop faire référence
à Moby
Dick.
Moi, il m'est beaucoup revenu à l'esprit. À chaque fois que je le lisais, je me disais, tiens, effectivement, il s'est passé ça. Elle a pris son premier harpon, elle est partie. La curiosité qu'avait Moby Dick, qui était un peu Achab, le prenait comme un peu du... Comme si Moby Dick venait taquiner le bateau. Mais moi, j'y revenais souvent à Moby Dick, quand même.
Taquiner le bateau. Allons taquiner le bateau, Valérie.
J'ai cherché un synonyme, je ne l'ai pas trouvé. C'est peut-être le fait d'être dans un
environnement. Ouais, mais il y a quand même dans ce bouquin une espèce de conscience de l'animal, tu vois, qui est presque un être humain, une personnalisation de la baleine blanche qui fait que elle est sentiente, quoi. Elle est sentiente avec la mer.
Mais c'est ça, le cas c'est déjà chez Melville, du coup, c'est pas mal.
Pendant que,
cherches,
pendant que tu cherches un passage à nous lire, Valérie, pour finir, donc il a 70 ans, Luis Sepúlveda, et donc c'est vraiment dans la lignée des thèmes qu'il aime, c'est-à-dire il est engagé politiquement, écologiquement, il aime le voyage et les peuples premiers, donc on est totalement
il
dans...
Il est parti vivre d'ailleurs pendant un an, mais peut-être tu voulais le dire avec un peuple primaire.
Non.
Ah, ça t'a loupé,
il est parti
info.
Vivre pendant un an c'est pas mal. Avec une population indienne.
Ok, Valérie.
Alors c'est dans les chapitres, chaque chapitre a une petite phrase, c'est la mémoire de la baleine qui parle de l'homme. « Il va apprendre, me disais-je, en le voyant obstiné et tenace, mais naviguant toujours à portée de vue de la côte, craignant le défi de l'horizon. L'homme a appris à se déplacer sur la mer, et de la même façon que moi, la baleine couleur de lune, j'ai reçu d'une autre baleine, et celle-là d'un autre, le secret des marées et des courants. L'homme a partagé ce qu'il a appris, et il s'est multiplié sur les mers. » Ses embarcations sont devenues plus grandes et il a dominé l'art de prendre le vent dans des surfaces légères qu'il a appelées voiles. Et il n'a pas tardé à découvrir le ciel et les étoiles qui lui ont indiqué le cap. Alors, il a osé naviguer dans l'obscurité et a cessé de craindre l'horizon.
Merci Valérie, très jolie.
Tu peux m'appeler Moshadik.
Je peux t'appeler Moshadik si tu veux.
Ça vous donne envie ou pas de lire ce bouquin ?
Claire ?
Oui. Oui, très, et je trouve qu'il y a, enfin, il n'est pas sans lien avec ce que je vais présenter là tout à l'heure.
D'accord. Ah, mais si j'avais su, j'aurais enchaîné par toi, mais on va partir dans une station essence de Pantin. Ouais, c'est comme ça. Avec un livre.
Pas le lien.
Qu'on a lu, il n'y a pas de lien. Avec.
Fut un temps, quand tu préparais pas, on se pouvait passer d'un livre à l'autre sans filtre, mais bon.
Mais ouais, mais maintenant c'est fini cette histoire. Mais tu veux le présenter maintenant ? On peut, hein, Claire, sinon soyons.
Bah ouais,
fou,
ça
hein.
Fait le lien. Allez,
pourquoi pas.
Vas-y.
Alors.
Attends, c'est pas confort là. Voilà. Prends le temps de t'installer.
Donc je vais présenter le livre, un livre qui s'appelle Sauvage de Jamie Bradbury. C'est une américaine, c'est son premier roman. Elle vit dans ce coin reculé de l'Alaska, voilà, aux États-Unis. Et donc c'est une histoire d'une adolescente qui a 17 ans et qui s'appelle Tracy. Elle vit avec son père et son frère dans une maison en lisière de forêt. Alors la forêt, elle adore la parcourir de long en large. Que ce soit pour des courses de traîneau ou pour la chasse. Et la chasse, pour elle, c'est pas qu'une activité de loisir, c'est un besoin vital. Alors, on touche ici le caractère un peu fantastique du bouquin, c'est-à-dire que le sang des animaux dont elle s'abreuve lui apporte une énergie vitale dont elle a réellement besoin. Donc, grâce à ça, elle parvient à s'imprégner de l'état d'esprit des animaux et des connaissances des bêtes. Donc c'est une consommation un peu vampirique. C'est pas présenté comme ça, mais voilà. Donc le roman, c'est pas seulement ça, c'est aussi, avant tout sur le long cours, une histoire, une quête, un récit initiatique. Cette jeune fille qui a des difficultés relationnelles dans son collège, etc., avec son père, son frère, elle est orpheline de mère. Et c'est de sa mère qu'elle a hérité de ce don un peu surnaturel, voilà, de communication, voilà, de sensation via le sang des animaux. Et alors ces promenades en forêt, c'est pour elle l'occasion de se remémorer les moments, les rares moments qu'elle a passés avec sa mère et toutes les connaissances que celle-ci lui a transmises. Alors, l'éditeur, il a pas du tout fléché le livre pour les adolescents. Pour autant, moi, j'ai pensé qu'il pouvait intéresser aussi ce public. Pourquoi ? Parce que, il est teinté de fantastique. Et les thèmes qu'il aborde, qui sont aussi le deuil de l'enfant qu'on était, la place qu'on est amené à prendre dans le monde, la filiation, l'attention à la nature, je pense que ça peut intéresser le public adolescent et le public adulte. Alors j'ai pensé qu'il y avait un lien avec ce dont on parlait là précédemment, la baleine, parce qu'on est dans cet univers là un peu... comment dire ? Alors là, on n'est pas... On a accès à la pensée des animaux via les expériences
qui se font saigner, quoi.
Voilà, de la jeune fille.
Aïe.
Exactement.
Alors,
elle les mange, mais vivant après. Les animaux, ils vivent en elle, après, une fois qu'elle les mange. Donc, si elle les parle, elle parle au nom des animaux, certainement.
Voilà, c'est ça.
Je demande à Claire.
Voilà,
je ne sais pas, je ne l'ai pas lu.
Je ne pouvais pas la regarder parce que sinon, je ne suis pas face au micro.
Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, quand je lis le synopsis, je me dis, waouh, ouais, c'est génial, le grand air frais, l'Alaska, elle aime les pièges, trappeurs et compagnie. Et en fait, non, ça part, hein, je mange le sang des animaux.
Oui, alors c'est pas, enfin c'est
complètement
vrai
fantastique. Après, il y a tout ce roman d'initiation que tu disais, hein, oui, de cette quête d'identité, de cette adolescence. Et tu le conseilles pour quel âge? Parce que tu dis pour les adolescents, mais c'est pas un peu gore quand même?
Non, pas du tout. Alors non, pas du tout. Donc les scènes où elle s'abreuve du sang des animaux, donc c'est absolument pas cruel. Alors c'est vrai que voilà, en ce moment avec nos mouvements vegan et tout, ça peut un peu choquer. C'est pas du tout présenté comme ça. Et finalement, c'est ce qui lui permet de ressentir, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc c'est pas vraiment la scène d'égorgement des animaux. Alors si vous voulez, j'ai un extrait à vous proposer.
Ah, avec plaisir.
Ouais. Alors, c'est parti.
Oui, ça donne toujours envie, c'est bien.
Alors, donc, on parle, c'est Tracy qui parle. Hein. Entre le moment où maman m'a accompagnée pour cette première chasse avec moi et celui où elle a complètement cessé de sortir de la maison, il y a eu une longue période où nous allions courir ensemble sur le sentier. Moi, à la traîne sur ses talons, jusqu'au jour où j'ai fini par la rattraper. Courir à ses côtés, puis la doubler. J'ai cru qu'elle m'avait laissé faire, que la fois suivante, elle me battrait de nouveau. Mais non, elle ne m'a plus jamais battue. Je la laissais toujours derrière moi. Je chassais et relevais mes pièges, et elle ne faisait que regarder. Des fois, je lui demandais des conseils. Mais la seule chose qui l'intéressait, c'était de m'apprendre à reconnaître les plantes et les racines. Sinon, il nous arrivait de suivre aussi longtemps que nous le pouvions la piste d'un animal que nous avions repéré. Quand je buvais seule. Maman était une mine d'informations sur les trucs qui se mangent, et la forêt s'emplissait de sa voix quand nous marchions ensemble. Mais elle évitait les choses que je voulais vraiment savoir. On creusait dans la neige pour exhumer des plantes, du trèfle, de l'épinard sauvage et des cynorhodons, flétris mais quand même comestibles. Ses doigts qui se touchaient tandis qu'elle m'expliquait ce qui était bon à manger et ce qui était du poison. Alors que moi, ce que je voulais qu'elle m'explique, c'était comment elle avait réussi à arrêter de chasser.
Sa mère qui lui demande, merci Claire, qui lui demande de respecter trois règles. C'est un peu ce que je dis à Valérie quand elle vient chez moi. Ne jamais perdre la maison de vue, ne jamais rentrer avec les mains sales et surtout ne jamais faire saigner un humain, à la base. Moi, ça m'a un peu rappelé le film, enfin, j'ai pas eu le livre, mais en lisant ça, de Julia Ducournau, qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle Grave, qui est sur une famille qui est vétérinaire d'enfant en enfant, et elle découvre en fait qu'elle aime la viande, qu'elle aime le sang. C'est un thriller qui est excellent.
Oui. Oui.
Ça m'a fait un peu penser à ça, je sais pas si tu l'as vu.
Non, alors pas le film en question, mais moi, entre autres références, j'avais pensé aux Enfants Loups, le manga japonais. Voilà, il y a des thèmes qui sont communs.
Merci Claire, Valérie.
Non, mais il s'est passé un truc incroyable, c'est quand Claire a raconté son livre, je me suis dit, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, et j'avais noté dans mon cahier qu'il y avait une approche chamanique selon laquelle les préhistoriques ingéraient les cerveaux des animaux pour s'incorporer de leurs qualités. Ce sont les effigies anamorphiques. Et il y a une sculptrice qui s'appelle Marguerite Humeau qui a fait des sculptures en fait comme ça, qui représentent les préhistoriques qui mangeaient les cerveaux des animaux pour s'imprégner de leur force en fait. Ouais. Donc le cerveau de la tortue, je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais j'imagine que le cerveau du mammouth peut apporter de la force ou autre.
Oui, possible.
Tu me diras pour le cerveau de la tortue, c'était une question. Oui.
Et le cerveau de Ludo, il apprendrait quoi?
Non, mais c'est rigolo comme quoi ça date.
Une belle chronique de station-service d'Alexandre Labruffe. Cher Popo, alors, Claire, il y a une règle dans cette émission, c'est qu'il faut que Popo elle parle assez tôt de ses livres parce qu'après elle boit un peu et elle n'arrive que trop à parler. Donc,
en général, Popo c'est ultra morbide, voilà, les bouquins qu'elle a.
On a inversé, mais il ne faut pas trop inverser. Non, mais c'est moi qui vais en parler de ce livre. Popo, tu réagiras dessus.
Tout à fait.
Alors, c'est un ouvrage qui a reçu le prix de la Maison Rouge. Alors, c'est un prix qui a été créé cette année lors du contre-sommet du G7 à Biarritz par Frédéric Becbédé et le philosophe Frédéric Schifter, qui, comme la Maison Rouge à Biarritz, organisateur du prix et lieu culturel, souhaite que le Pays Basque dispose d'une distinction littéraire. Et ça tombe bien parce qu'Alexandre Labruffe est bordelais. Voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, il avait, c'est son premier roman à cet auteur. Il avait quand même déjà publié avec Benjamin Limonet un récit expérimental à quatre mains qui s'appelait Battre Roger en 2008. C'est quelqu'un qui collabore sur différents projets artistiques, notamment avec la Villa des Arts dans le bas Montmartre, au théâtre avec le metteur en scène iranien Said Mirzaei, ou Filmic avec le réalisateur coréen Jin Son Il. Alors, il s'est lancé dans l'écriture en solo pour un petit ovni, Pauline, quand même.
Ah, je suis tout à fait d'accord, oui.
Alors, Chronique d'une station-service donne la parole à un pompiste à Pantin. Alors, rien de très emballant à première vue. Ce pompiste s'appelle Beauvoir. Pour autant, il est plus question de contrôler les allées et venues des automobilistes, de tenir la caisse ou le barque de littérature. Mais il cherche la poésie dans tout ce qui l'entoure, et notamment dans les conversations et attitudes de ses clients. Alors, c'est un peu par moments le désert des Tartares de Dino Buzzati, où le jeune Giovanni Drogo attend la guerre qui n'arrivera jamais. Pour tromper son ennui, Beauvoir, lui, atteint un braquage qui n'arrivera jamais, ou met l'accent sur des échanges douteux de livres dans sa station essence. Enfin, des intrigues qui sont assez minimalistes, des fausses pistes, des quiproquos érotiques pour se sortir de cette banalité des histoires que l'on a envie de suivre finalement, parce que tous ces personnages qui arrivent ponctuellement, on a envie de les suivre.
On a envie de les connaître plus, ouais.
Voilà. Alors que c'est des petites histoires, oui. C'est vraiment minimaliste et pourtant on a envie de les suivre. Alors pour se sortir de cette banalité, cette vie sans action, en fait il a le temps d'observer et de tirer une réflexion sur l'espace périurbain. Alors j'ai lu dans quelque part quelqu'un qui présentait ce personnage comme une vigie sociétale. Alors je sais pas ce que t'en penses, Pauline, mais je trouve que c'est exactement ça.
Oui, oui, bah c'est ce qui montre justement qu'il a accès à tout, à tout le monde et qu'il voit tout. Et c'est ça qui est rigolo dans son histoire, c'est que derrière une Lamborghini, il va voir tout le monde, et il parle de tout le monde, et il observe, et il fait des réflexions rigolotes, et il voit des habitudes qui reviennent chez tout le monde, et on se croit tous différents, mais finalement on est un peu tous les mêmes. C'est plein d'humour, c'est assez rigolo, ouais.
Voilà, et c'est des chapitres très très courts, parfois c'est même des haïkus. C'est des histoires donc avec des personnages qu'on retrouve, ce qu'on a dit, sa sœur, son beau-frère, son père, Chisa, une japonaise dont il est amoureux, Nils Land, son ami avec lequel il joue aux dames, qui reviennent ponctuellement. Et voilà, par rapport à toutes ces histoires, il parle de la société, de cette ville urbaine. Il perd une clé USB où il avait un livre.
Et on est bien curieux de savoir ce que c'était ce bouquin.
Et on le saura jamais.
Non.
On le saura jamais. Il le donne à un SDF. Après, il se dit, mais mince, il y avait mon livre dessus. Alors que j'aspirais qu'à une chose, c'est à devenir écrivain. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est grave par moments aussi. Alors, je vais vous lire des passages. Par exemple, il dit. Il note ce qui vend le plus dans sa station essence. Il dit le Coca Zéro, les chewing-gums, les chips, les magazines érotiques ou d'automobile, les cars de France, les sandwichs, l'alcool, les barres chocolatées, Mars en tête. Évidemment, l'essence, une certaine idée du monde, en fait, un monde totalement junkie dont je serai le principal dealer. Voilà, parce que pour lui, il est au sommet de la pyramide en vendant l'essence. Et il se rend compte que cette pyramide, l'essence, un jour il n'y en aura plus, les prix augmentent, les barils diminuent, et qu'il va peut-être disparaître. Donc il dit, je me dis que si la station essence service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un archéologue découvrait dans 100 ans les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète, mon crâne atypique, ma gourmette en or à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarait trésor national et je serais exposé au musée des arts premiers.
Je crois que si j'avais dû choisir un passage, j'aurais choisi celui-là. Il m'a fait beaucoup rire. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça assez génial.
Voilà. Et pour revenir sur la Valérie.
Non, j'ai une question. C'est pas trop dur à lire justement ces petits amoncellements de chapitres très très courts.
C'est super facile. C'est très léger. Ça se lit très 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 bien. Ouais.
Ah ouais, non, et puis très franchement, moi au départ, j'étais pas hyper emballée, ni par la forme, ni par le fond. Mmh. Un pompiste qui fait un peu le philosophe, je trouvais que c'était un peu cliché, un peu facile peut-être, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment...
Écrit à la première personne,
ouais.
Voilà, on s'est dit, allez, on va ressortir de la Beat Generation, tout
il
ça.
Il observe le monde, bon, bah ouais, ouais
c'est un premier roman.
Ouais. C'est un premier roman, ouais.
Mmh. Et c'est très drôle, tu vois, il y a de l'érotisme sans que ce soit... C'est jamais, ça dépasse jamais les bornes dans la vulgarité. Il y a de l'humour, c'est toujours fin. Les personnages sont tous assez rigolos. Si je devais mettre un bémol, c'est peut-être la fin qui est très abrupte. Moi, j'ai trouvé.
Oui, totalement.
Inattendu, tu dis, attends, mais il me reste deux pages, c'est pas possible. Et finalement, ça va très bien avec le bouquin, en fait. Que ça se termine comme ça d'un coup.
Hop. Complètement.
Mmh. Ouais.
Alors pour revenir à ce sommet de la pyramide dont je vous parlais tout à l'heure, il dit « Je représente le socle de la société moderne, je suis au sommet de la pyramide de la mobilité en quelque sorte, le rouage essentiel de la mondialisation. Sans moi, la mondialisation n'est rien. Mais mon sommet est fragile, à l'heure du déclin de la production, j'ai parfois l'impression d'appartenir déjà à la préhistoire. » Voilà, et il philosophe sur lui, sur les autres, sur la société, dans une station-service à Pantin. Donc c'est quand même c'est vraiment gros coup de cœur. Ouais,
ouais, bah ouais. On en ressort avec un bon sourire.
Voilà, c'est un livre de vacances. Ouais, tu te dis, j'aimerais vraiment quelque chose à lire vite au bord de la piscine. Alors je vais prendre ce livre et la baleine blanche.
Un livre de vacances pour la rentrée, bravo.
C'est ça. Mmh. Ah ben c'est bientôt, hein, tu sais. Mmh. Voilà. Autre question sur ce livre ?
Non, moi, ça, ouais, j'ai trouvé ça intéressant, ça me donne envie de le lire.
On fait une pause musicale, on revient après ?
Allons-y.
Ouais.
Alors, ça marche comment en 2019-2020 pour la musique ?
Alors, pour la musique, je choisis unanimement les chansons.
C'est démocratique, c'est bien.
C'est démocratique.
Sous mon influence, comme à chaque fois.
Ouais, c'est parti. Des vagues, la baleine. T'as la baleine ?
I'm spinning like the undertow, taking you way, way down. My thoughts are colossal, I can see they weigh you down. And I feel my soul is sitting on a dock looking at the endless sea, hoping somehow you are sailing back to me. Tenderly, heavily, you will come, you will come. Tenderly, heavily, like pounding on padded walls, my heart beats subtle. All I can smell is stale smoke, dirty sheets and covers. You sweep across me like a wave, taking me like a rushing river. And I sink down, down, down into the deepest water. Tenderly, heavenly, you will come, you will come. Tenderly, heavenly, you will come, you will come back to me. Like a wave, you wash over me. Seas always, always, always. Like a wave, you wash over me. The seas always, always calling you away. Tenderly, heavenly, you will come, you will come. Tenderly, heavenly, you will come, you will.
Allez, on est reparti sur ces merveilleuses vagues avec Magali qui nous a rejoint. Salut Magali.
Bonjour.
Alors tu vas nous...
Bonsoir.
Ouais, bonsoir, bonjour, parce qu'après il y a des redis familiers, donc ça marche
bon,
aussi.
Bon, alors bonjour, bonsoir, bon bah les deux.
Ouais, les deux. Alors tu viens nous parler de quoi ?
Alors moi je viens parler d'un album de littérature jeunesse qui s'appelle Parler avec les arbres, qui a été écrit par Sarah Donati aux éditions du Rouergue et qui date de 2018. C'est un livre que j'ai découvert au salon Saint-Paul-Trois-Châteaux cette année, en 2019. Et en fait, c'est un livre donc de littérature jeunesse, mais qui peut s'adresser à tout le monde. Ça fait le lien un peu avec ce qui a été dit tout à l'heure autour de la baleine. C'est un livre sur l'éloge de la lenteur, en fait. C'est-à-dire réapprendre à regarder ce qui est autour de soi, et que la beauté, parfois, elle naît du quotidien, et de réapprendre à regarder les choses qui nous entourent et de réenchanter le monde, en fait. De retrouver cette magie. C'est un livre que je lis actuellement sur la caravane des libertés. On est à Langogne en ce moment, donc je le lis cet après-midi lors des ateliers.
Pub.
Ouais. Alors donc, attention, parce que lire maintenant. Avec la rediffusion, les gens vont aller à Langogne et vous y serez plus.
Non, mais c'est ça. Mais pour aller à Marvejol dans deux semaines.
On revient ce week-end.
Voilà, exactement.
On sera à Marvejol, ouais.
Et le retrouver dans toutes les bibliothèques de Lozère, bien sûr.
Allez, à toi l'honneur.
Parler avec les arbres, de Sarah Donati. J'ai d'abord pensé qu'il fallait le saluer. Alors j'ai dit « Salut !» À quel visage faut-il s'adresser? J'en devine au moins 5. Un arbre, c'est bien plus qu'une chaise. C'est du bois qui vit. Je suis tout contre son tronc. J'écoute. Pas de battement à l'intérieur. Ce ne sont que des odeurs de mousse et de vent. Odeur sauvage. « Salut !» Je répète plus fort. Je fais 10, 20, 30 pas en arrière, jusqu'à le voir tout entier. Un arbre de loin est différent, de près aussi. Plus je me rapproche, et moins je vois. Plus je me rapproche, et plus je vois. Je me demande s'il ne parle pas une autre langue. « Hello !» Je murmure « Veux-tu être mon ami ?» J'essaye de faire comme lui. Je suis à moitié immobile et à moitié agitée par le vent. Je m'étire. J'ai des branches, des racines. Avoir des racines, c'est difficile. Un arbre continue sous terre. Il existe une partie énorme de lui qu'on ne voit pas. J'ai envie de rigoler. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Je ne résiste plus. J'ai des fourmis dans les pieds et je commence à courir tout autour de lui. Je me rappelle que j'aime bien avoir des jambes. Eh, on joue ? Je suis maintenant un animal. Je le chatouille comme ferait une chenille. Je me gratte le dos contre lui comme le font les ours. Sur les branches hautes, je deviens l'écureuil. D'ici, je peux tout voir. Le bois, la route, les voitures, le soleil et ma maison. Sans même avoir franchi une porte, je suis entrée dans l'arbre. Je lui dis mon nom, et j'en invente un pour lui. L'écorce, les jambes, le ciel et mon cœur s'entremêlent. Je devrais rentrer, mais on reste à parler, encore un petit peu.
Merci Magali, tu devrais en faire ton métier de lire des livres.
Je vais y penser.
Ouais. C'est à quelle maison d'édition ?
C'est Auergue.
Auergue.
Auergue, oui.
Tu pourrais nous décrire un peu le... Parce que c'est un livre jeunesse, donc...
Livre jeunesse, et en fait, les illustrations jouent avec le côté, les aspérités de l'écorce, et avec les
empreintes digitales,
des doigts, en fait. Pour faire vraiment le lien entre la singularité et le fait que chaque personne, chaque être humain est unique, et chaque arbre est unique aussi. Donc voilà, c'est ce lien fort entre le sang qui coule dans l'être humain, la sève, et les liens de racines, comme nous on peut avoir en tant qu'être humain et que l'arbre a lui aussi, et qui sont parfois cachés et parfois difficiles à retrouver par moment.
Quel âge à peu près parce que là c'est assez large comme spectre.
À lire à partir de 6 ans, CP, oui.
Ah ouais. Avant.
On peut lire avant.
Aussi, tu peux lire avant.
On peut lire avant parce que c'est très doux, c'est comme un poème.
Et en plus, mais on a envie de le toucher, le bouquin.
Oui, mais c'est
un côté très.
Oui, tout à fait.
Très organique, je dirais.
Oui, hein. Ça joue avec l'écorce. Ouais. En fait, on a vraiment l'impression de sentir l'écorce de l'arbre. Avec
je me frotte contre l'arbre.
C'est
contre
ça.
Le tronc.
Exactement. Ça joue sur les sensations, sur les émotions.
Tout à fait. Mais quand on est enfant, on grimpe dans les arbres, on se colle à l'arbre. Enfin, il y a tout un rapport très.
Non, pas moi. Ça ne m'est jamais arrivé.
Moi, si, ça m'est arrivé Moi, si ça m'est arrivé en Grèce, à monter dans les arbres et être en fusion avec ces arbres, et notamment les figuiers, parce qu'ils ont une espèce d'écorce qui ressemble à une peau. Et c'est étonnant, cet arbre, hein, franchement. Mais,
tiens, ça sent très bon. J'allais partir en Islande, mais vu que tu parles de Grèce, Nico, je vais chambouler mon programme et te laisser la parole pour un livre qui m'a vraiment donné envie de le lire, mais je sais pas, peut-être que non. C'est Ici seulement nous sommes uniques de Christine Abel, édition chez Bustel Chastel, et avec des héros, des adolescents qui grandissent, à ce que j'ai compris, qui sont en Grèce, c'est ça?
Oui, c'est ça, ça se passe en Grèce. En fait, c'est une famille, enfin, ce sont des enfants qui se retrouvent parce que leurs parents sont archéologues, et en fait, ils ont une fouille dans un village en Grèce. C'est pas vraiment Grèce, parce que ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait ils parlent d'un petit village dans lequel je suis allé l'année dernière. Ça s'appelle Agios Nikolaos, et Agios Nikolaos, en fait, c'est la baie de Saint Nicolas, et ça se passe en Crète.
Ah, c'est en Crète.
Voilà, donc c'est vraiment en Crète. Il Crète, le dit pas que c'est Grèce, en Grèce. Hein. Ben ça fait partie de la Grèce, hein, la Crète, oui. Voilà. Par contre, comme il dit Agios Nikolaos, ben on sait vraiment que c'est en Crète, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit village très très ancien, qui communiquerait d'ailleurs avec Santorin, hein, avec par un espèce de trou dans lequel les bateaux disparaissent, ont disparu pendant de très nombreuses années.
Le
commandant Cousteau, en fait, a fait beaucoup de recherches. Ils n'ont jamais réussi à plonger aussi profond. Et en fait, c'est un trou qui communique avec le trou de Santorin.
Donc, mais c'est avéré ?
Ah oui, c'est avéré, oui. Oui, oui. Dans les années 60, en fait, il y a eu des éruptions volcaniques et des remontées de lave se faisaient par Agios Nikolaos. Donc c'est là où ils ont vu ça. Et du coup, il y a des très très vieux navires qui sont des épaves au fond. Enfin, il y a toute une histoire qui est assez extraordinaire. Du coup, le lien avec la fouille, bah tout de suite, moi j'ai ressenti comme cette histoire qui me parlait énormément. Ces enfants, en fait, ils ont 3-4 ans, ils grandissent, ils ont 7-8 ans, 10-12 ans, 15 ans, 20 ans. C'est toute l'histoire de tous ces enfants qui se retrouvent parce que leurs parents sont archéologues, passionnés d'archéologie. Ils font des fouilles dans lesquelles ils trouvent des tessons, dans lesquelles ils trouvent tout ce qu'on peut trouver en archéologie, quoi. Mais le propos du livre, en fait, n'est pas sur l'archéologie. Le propos du livre est sur comment, dans notre enfance, nos histoires d'enfance nous marquent à travers ces étés qu'on va passer au soleil sur une crique, le rapport avec la mer, le rapport avec les autres, les premiers émois, les relations garçons-filles, et puis voilà tout ce qui se passe dans leur tête. Et donc c'est vécu, c'est écrit par un narrateur qui raconte cette histoire, qui a vécu ça et qui parle de ses amis. Et en fait, quand ils vont en Grèce, ils s'appellent pas Pierre, ni Noé, ni Abdel. Ils vont s'appeler Nisos, ils vont s'appeler Zach, ils vont s'appeler Akari, ils vont s'appeler... Ils portent chacun un nom et qui correspond en fait à un domaine de prédilection. Pour les uns, c'est sauter sur les pierres et dans les rochers. Pour un autre, c'est aller profondément au fond de la mer chercher les tritons. Pour une autre, la petite Stella... c'est rester au bord de l'eau et n'arrive pas à nager parce qu'elle a peur alors qu'elle est présente sur l'île toute l'année. Voilà. Et c'est comment progressivement cette histoire de ce village subit les affres de l'histoire, les affres de la modernité avec les touristes qui viennent, avec le changement qui s'opère. Donc il y a une boîte de nuit qui va se mettre en place, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, la fouille s'agrandit, voilà. Et comment en fait on lit cette épopée de ces enfants de façon très simple et à travers cette écriture qui est à la fois très poétique mais qui est d'une grande simplicité avec des phrases extrêmement courtes. Mais quand on lit ça, on voit la mer, on voit le sable, on voit les coquillages, on entend le bruit des repas, des verres gouléants remplis de rezina, d'ouzo. On entend les chants. Enfin, c'est passionnant parce que si vous avez été en Grèce, vraiment lisez ce livre, ça vous donne l'envie d'y retourner. Donc ça, c'est déjà très très important. Et puis c'est un retour dans le monde de l'enfance et dans sa naïveté, mais dans ce qu'il y a de à la fois de beau mais de cruel aussi, parce qu'entre eux ils sont très très cruels. Voilà. Et comment ils grandissent. Et en fait, plus j'avançais dans le livre et moins j'avais envie de le lire, parce que plus ça me faisait mal, dans le sens où en fait on assiste à leur à l'apogée de cette enfance, quoi, où ils deviennent des adultes et en fait où ils se séparent. ils se verront plus. En fait, ils se fuient, quoi. Et c'est la fin. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui se finit, quoi. Voilà. Alors que moi, j'ai le sentiment que l'enfance, elle se finit jamais. Voilà, qu'on reste un peu les enfants, enfin, qu'on garde toujours cette mémoire-là et qu'on a toujours plaisir à retrouver des vieux copains, des vieilles copines.
Oui, mais ils perdent leur spontanéité, ils perdent plein de choses. Enfin, c'est la suite logique du passage de l'enfance à l'âge adulte.
Ouais, mais on n'a pas envie de dire ça. Enfin, moi, j'avais pas envie de dire ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était peu dommage. Mais après, j'ai adoré le lire, quoi. Franchement. Alors,
justement, l'auteur en parlait en disant qu'elle a écrit ce livre pour évoquer ce passage à l'âge adulte et la difficulté que cela représente, surtout quand on a eu une enfance, une adolescence hors du commun un peu. Comment accepter une vie d'adulte banale? Comment accepter de sortir d'un groupe, de passer du nous au jeu? C'est ce qu'elle a voulu mettre en avant dans ce roman.
C'est ce qu'on ressent. Et puis le fait que quand on grandit, ben voilà, il faut accepter la séparation, faut accepter que les choses changent, quoi. Le changement qui est pas toujours très positif, parce que la mer devient polluée, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que les touristes deviennent des ennemis. Il y a des mots qui sont forts et qui sont dits quand même, tu vois. Et aussi un havre de paix qui disparaît au fur et à mesure. Et donc ça, c'est pas mal.
Alors l'auteur voulait que le lecteur puisse vraiment s'immiscer dans cette histoire, sentir les odeurs, voir les couleurs, la chaleur de la terre, la sentir. Toi, quand tu as lu ce livre, tu étais
Grèce. Alors ça, c'est vraiment la Grèce, c'est vraiment la lumière éblouissante du matin jusqu'au soir, la chaleur, la mer omniprésente, quoi. Les gens qui sont très posés. Moi, je suis revenu en Crète, en fait. J'y suis allé dans les années 90, 91. Je suis allé quand j'avais 16 ans aussi. Donc quand j'y suis retourné vraiment en Crète, c'était 35 ans après. Et j'ai eu un choc parce que je me suis dit, quand je suis allé à Agios Nikolaos et à Tsoutsolos, des tout petits villages, j'ai retrouvé la même ambiance. Pas les mêmes gens, bien sûr, mais la même ambiance. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ne sont pas capables de tout partager. Alors qu'on sait que la Grèce, ils sont quand même dans une situation économique qui est compliquée. Mais toujours la même...
Il y a une aura quand tu arrives dans les villages de Grèce, et il y a une sorte d'aura, il y a une sorte d'odeur qui est indéfinissable de
d'huile d'olive.
Qui vient de la mer, qui vient de peut-être de la cuisine, des pierres. Il y a quelque chose, il y a une aura.
Ah oui, mais il y a vraiment une énergie qui est incroyable, quoi. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment ça en lisant ce bouquin.
Allez, une lecture.
Ouais, un petit passage parce que c'est particulier quand même. Pardon. Ici, nos parents ne sont plus les mêmes. D'adultes responsables, ils deviennent ces individus au comportement erratique, beaucoup plus séduisant et un peu effrayant. Dans la véranda, midi et soir, nous les croisons avant de nous disperser, les uns au chantier, à la fouille, et les autres vers la crique. Avec nos parents de l'été, imbibés et foutraques, finis les horaires réguliers et les goûters préparés avec soin. Nos mères, qui toute l'année nettoient le frigo au désinfectant, achètent les steaks sous vide et maintiennent avec obsession notre hygiène corporelle, choisissent ici la viande sur l'étal du village, couvert de mouches et noir de sang caillé. Nous restons en retrait entre deux hauts le cœur. Les nuits suivantes, elles constateront d'un œil morne nos vomissements nocturnes avant de se rendormir, nous laissant amorphes, exténués, cheveux emmêlés dans l'odeur aigre des draps souillés.
Merci Nico. Pour précision, l'auteur avait des parents qui étaient archéologues, donc tout ça, elle a vécu. Et pour elle, ses parents, les amis de ses parents étaient des personnes à la fois très austères et en même temps complètement dingues. Et elle a expliqué ça dans une interview qu'on a vue, des personnes très fantaisistes et très austères. Et elle a voulu aussi rendre hommage à ces personnes-là.
Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on lit là. Hein. Ben, dans l'histoire... Déjà, quand ils arrivent dans cette maison où ils se retrouvent que les archéologues, donc ils sont peut-être 6 ou 7 familles, c'est ce qu'on comprend, chacun avec son petit coin, voilà. Déjà, ils changent de nom. Ils s'appellent plus Pierre, etc. Ils portent tous. Alors, il y en a un qui se la joue allemand, donc il s'appelle Gerhard. Il y en a un autre qui va s'appeler Zachary. Il y en a un, alors qu'il s'appelle en fait Mohamed, je sais pas, Pierre, André, enfin des noms assez communs, quoi. Et là, en fait, ils se donnent des personnages, quoi. Et c'est très, très étonnant. Mais quand on a fouillé un peu avec des gens, des archéologues, en fait, ils sont vraiment dans un autre temps, quoi.
Et on imagine aussi que la durée, enfin le temps qui s'écoule, il est différent dans une famille d'archéologues que dans d'autres familles, parce que tu sais que tu dois, tu découvres quelque chose, mais tu sais pas jusqu'où ça va aller. Et comme c'est très méticuleux, on s'imagine que ça va être sans fin. Il y a ce côté aussi poussière qui fait peut-être penser à ce côté austère, mais il y a le côté aussi farfelu, parce qu'il faut quand même être farfelu pour être exalté par un bout d'os, un bout de pierre, un bout de métal.
Oui, un tesson, parce qu'il parle de tesson, et donc chaque fois qu'il trouve un tesson, c'est un miracle, quoi. C'est un truc extraordinaire à chaque fois, quoi.
Merci Nico, c'est quelle maison d'édition ouais,
Bûcher Chastel.
Voilà, qui nous l'a envoyé, oh ouais, donc il faut les remercier.
C'est un bel ouvrage.
Tout le monde ne nous a pas répondu. Mais eux, oui. Tiens, on va prendre l'avion, on va passer de la Grèce à l'Islande.
Oui, parce qu'on avait un peu chaud et qu'en Islande, il fait plus frais et on y est quand même bien. C'est et vrai. Je sais que l'année dernière, vous aviez adoré aller wow. voir Eiríkur Örn Nordenstahl.
Comment
vous rigolez? C'est notre spécialiste de l'Islande.
Oui, à force. J'avais lu Kirkjur Bæjarskurf et je l'avais quand même cité en entier. C'était mon challenge, j'avais réussi et deux ans plus tard, je le refais. Donc, je vais vous parler de Eiríkur Örn Nordenstahl, pardon, qui nous présente son troisième livre. En fait, alors Ludo, je sais qu'il a Ludo a ses notes et il est en train de vérifier que ce que je dis est réel, puisque j'ai tendance à beaucoup improviser.
Attention à toi.
Je n'ai pas de notes. Donc c'est son troisième livre, malgré le fait qu'il soit très jeune. J'avais eu un gros coup de cœur sur le premier qui s'appelait Ilska. J'avais un peu moins aimé le deuxième, mais là le troisième Gaeska, ben il est très perturbant. Mais vraiment très perturbant.
Il a l'air.
Voilà. Si bien que je ne savais pas si j'en parlais, si j'en parlais pas.
La bonté.
La bonté, voilà. Gaeska, la bonté. En fait, chaque titre, il donne le nom islandais et la traduction dans la langue du pays sur lequel il diffuse, donc Ilska, le mal. Et ensuite, donc là, c'est le troisième opus. Alors, on pourrait penser quand on lit les quatrièmes de couverture ou quand on lit sur Babelio, Ludovic.
Je ne les lis jamais.
Que Gaeska serait une suite aux deux premiers. Eh bien, pas du tout. En fait, la seule suite qu'on peut trouver, c'est la chronologie avec... comment dire ? Le premier avait été écrit, le premier livre qu'il avait écrit, c'était l'histoire d'une fille qui écrivait une thèse sur les néo-nazis et qui avait rencontré un néo-nazi qui était tombé gravement amoureuse de lui. Le deuxième, c'était sur
plutôt chouette.
Voilà, plutôt sympa, engageant, jovial. Ouais. Le deuxième, c'était sur une ville qui était dans l'Islande, qui était Reykjavik, qui était totalement recouverte de caméras vidéo. Toutes les conversations étaient enregistrées. Il y avait des caméras jusque dans les toilettes.
Ludique.
Plutôt chouette aussi, assez divertissant, distrayant. Donc c'était Heimska. Voilà. Et donc Gaeska, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut nous faire de pire que ça? Eh bien, il a réussi à nous perturber, en fait. Gaeska, il raconte un peu la révolution islandaise. Si bien que moi, il m'a mis le doute. Il m'a mis le doute et j'ai été rechercher voir s'il y avait eu récemment
avec
une révolution.
Parti pirate.
Voilà, mais il n'y avait point eu.
Oui.
Oui, ils m'ont bluffé, en fait. C'était vilain, mais c'est tellement bien monté que je me suis dit, non, il y a eu une révolution, c'est pas possible. Et en fait, il raconte donc l'histoire d'un député, donc du Parti conservateur, qui, avec son épouse, vit une vie tout à fait lambda. Et qui, du jour au lendemain, va rencontrer une jeune fille, donc qui est issue donc de l'immigration. Les parents sont des immigrés, et la rencontre avec cette jeune fille va changer totalement le cours de sa vie. En fait, du moment où cette jeune fille l'attrape par la main, en fait, sa vie va littéralement changer. Et tout ça, ça va se passer dans un livre, mais sur 4 jours. En fait, le livre est découpé en 4 chapitres qui sont jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais après, sur des tranches horaires, à chaque fois, chaque sous-chapitre va être minuit, 4h du matin, 6h du matin, 10h. Et il y a aussi 2 tranches de vie, parce qu'il y a la secrétaire donc de ce député. On suit sa vie à elle aussi. On suit la vie du député et de son épouse. Et on suit aussi la vie donc de ce couple d'immigrés donc qui ont la jeune fille qui va tendre la main à ce député. Alors... C'est un maelstrom de personnages. Au départ, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'on ne sait plus. À chaque fois, c'est écrit à la première personne, donc on ne sait plus qui parle à qui. C'est un peu difficile à suivre. Mais en fait, très vite, on a envie de savoir plus. Pourquoi est-ce que l'auteur parle chaque fois des collines qui brûlent autour de Reykjavik? Pourquoi est-ce qu'il parle tout le temps de ces femmes qui se jettent des immeubles? Ça paraît presque... On aurait l'impression que les femmes disparaissent de l'écran Islande. Mais en fait, plus on avance, plus on se rend compte que non, au contraire. En fait, on parle de ces femmes qui se jettent par la fenêtre, mais c'est des femmes qui se jettent à l'eau. Et petit à petit, dans le livre, en fait, les femmes prennent le pouvoir.
Et, mais c'est fait de façon totalement insidieuse. Et petit, plus on avance, on se dit, mais mince, mais l'homme dans tout ça, en fait, il est mis au second rang. Et petit à petit, en fait, les femmes sont en train de prendre le pouvoir et elles vont diriger totalement l'Islande. Alors dans le public, on dit on sent qu'elle a apprécié. Alors je suis pas féministe pour deux sous, mais j'avoue que c'est amené tellement de façon douce et délicate. Ça ne pouvait être que féminin. Non, c'est pourtant c'est un homme qui a écrit. Non, c'est amené tout doucement.
Comme
quoi, tout est possible.
Il y a de l'espoir.
C'est ça, le monde n'est pas perdu, on va y arriver. Non, et c'est amené tout doucement, et comme à chaque fois dans un roman écrit par un Islandais, je suis chaque fois subjuguée de cette facilité.
Est-ce que tu étais en Islande?
Toujours pas.
Oh, mais vas-y.
Chérie, si tu m'écoutes.
Appelle le Nico.
Casse la tirelire.
C'est ça. Allez, sois fou. Donc voilà, donc c'est vraiment assez incroyable parce que on le sent pas du tout arriver, et même sur la quatrième de couverture, l'auteur nous donne l'impression qu'il va nous parler d'une histoire plutôt d'intégration suite à de la migration assez importante qu'il peut y avoir en Islande compte tenu de la taille de l'île, et en fait pas du tout. Et en fait, ça bascule là-dessus. Et puis, il y a en permanence cette notion de feu, de cette colline autour de Reykjavik qui est en train de cramer. Et on comprend qu'à la fin, pourquoi est-ce que ça crame. Et alors, ça tient en haleine. Et c'est vraiment, comme sur la quatrième de couverture, ça parle aussi de cette gamine qui attrape la main du député. Et pareil, ça met beaucoup de temps à arriver dans le livre. Donc, ça installe une espèce de suspense, un imbroglio entre les personnages.
Un quoi ?
Un imbroglio.
D'accord.
Alors, ça vient peut-être du lieu dans lequel on enregistre, parce que d'habitude, quand on est au studio, je loupe ma mémoire. N'imbroglio pas. Jamais, en temps normal. Voilà, donc c'est vraiment encore une fois un coup de cœur. Alors après, est-ce que c'est vraiment que les Islandais sont prolifiques, ou est-ce que vraiment je suis acquise à la cause de Eiríkur Nordal? Je ne sais pas.
Allez, vite fait, un petit court passage, parce que Pauline a encore un livre à lire, et après on a un texte à vous lire.
Peut-être juste sur le moment où il décide.
Sinon, tu lis que le titre.
Gaiska.
Non, je rigole, vas-y.
Et le nom de l'auteur.
Un jour, on comprend tout bonnement qu'il est temps d'aller de l'avant, de faire ce qu'on avait l'intention de faire, d'être celui qu'on est convaincu d'être. Si on veut mériter le qualificatif d'humain, il faut réviser chacune de ses positions au lieu de s'imiter. De dire que les autres pensent ce qu'on va dire, ce qu'on a l'habitude de dire. Il faut éteindre le moteur et passer en pilote automatique. Et désormais, je ne pouvais plus aller au travail. Ça me semblait plus normal et ça ne l'avait sans doute jamais été. Mais j'avais peur d'entendre ce que les autres en pensaient. Et aussi étrange que ça puisse paraître, je redoutais surtout l'opinion de Millie, qui était sa femme.
Merci Valérie. Pauline, ça va être compliqué, il va falloir faire court. Mais
On peut passer parce que c'était pas, c'était pas une réussite. Mon
c'était bouquin. Pas terrible.
Et j'ai lu des super critiques pourtant.
C'est vrai, alors mais justement,
on va en lire un mot, comme ça on va passer les micros par là. On va laisser la place à Claire et Marlène qui vont venir. Rapidement, Monica Sabolo-Eden, c'est dommage parce que j'avais encore un livre à présenter, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai bien lu jusqu'à la fin, mais bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Monica Sabolo, qui est française, c'est ça, hein, qui
j'ai pas
nous
du tout
écrit.
Travaillé l'auteur, ça voilà. M'assure que tu l'as fait.
Alors, cette auteure a écrit ce livre le 16 novembre 2017, plutôt précis, parce qu'elle n'a pas eu le Goncourt des lycéens, et donc du coup, pour oublier la sauvagerie du monde littéraire, elle décide de s'intéresser à la sauvagerie tout court. Elle, qui travaille une envie de grands espaces, donc elle nous emmène où ? Elle nous amène, alors je vais te dire, on sait pas trop où, on pense au bois de la Colombie-Britannique, quelque part au cœur des grands espaces canadiens, peut-être du côté de l'Alberta, on sait pas trop.
Moi je voyais une réserve indienne aux États-Unis, c'est marrant, tu vois.
C'est ça, mais ouais. Tu sais, des fois ils migrent vers le nord avec Trump, c'est compliqué d'être indien aux États-Unis.
Et ouais, on se retrouve donc dans ce lieu, donc on sait pas trop où il est, on est à la lisière de la forêt, on a donc une population a priori indienne, mais bon, c'est jamais dit clairement. Et l'héroïne, la petite Nita, nous raconte sa vie d'adolescente à un moment où Lucie, la quasi seule blanche de son lycée, est découverte violée dans la forêt, encore vivante, mais complètement.
Enfin, on retrouve les thèmes que tu as l'habitude de lire dans cette émission.
Toujours des livres spécifiques à Pauline.
Toujours plein de douceur,
de l'Holocauste.
Elle n'a pas lu sur la Shoah encore, hein.
Non,
ça va
pas
venir.
Encore.
Mais voilà, donc Itam nous parle de sa vie d'adolescente dans ce cadre-là. Et puis alors là, on a une espèce de très gros mélange qui commence. On a la relation des adolescentes aux garçons, la relation des adolescentes aux femmes plus âgées, la violence des hommes sur les femmes, la vie d'une jeune indienne, aujourd'hui dans le monde. On a énormément de thèmes qui se mélangent. On a un peu d'ésotérisme, on a un petit côté thriller, un petit côté policier. Et en fait, moi, je me suis sentie croulée sous trop de thèmes et j'ai pas vraiment vu où elle voulait nous emmener, Monica Sabolo. Je me suis un peu perdue dans tout ça, j'ai pas trouvé le lien. Et en plus, je pense que j'ai été un peu influencée par la collection, c'est la Blanche de Gallimard. Donc je m'attendais à un truc un peu intellectuel, assez... Et finalement, j'ai eu l'impression de lire un livre pour jeunes adultes ou grands ados. Et du coup, j'étais un peu perdue. Donc, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre le dise. Je suis très déçue, Valérie, que tu ne l'aies pas lu.
Il est sur mon bureau, mais mon patron me donne trop de travail ces temps-ci.
Ah, c'est ça. Monica Sabolo, dans ses romans, une passion pour les jeunes filles, hein, pour l'adolescence, la fragilité, tout ça. Et dans ses romans, il y a beaucoup de filles hein, comme toi, un peu popo en jean, en short, blonde avec des cuisses saillantes, tu vois. On trouve ça dans le livre un peu.
Je sais pas. Je l'ai pas ressenti.
D'accord, tu l'as pas ressenti. Ok, juste un mot, quasiment un dernier mot. Je voulais présenter Par les routes de Sylvain Prudhomme. Je vous le conseille. Voilà, c'est un très beau livre qui est aussi chez Gallimard, il me semble. Avant de finir cette émission, on va finir par un texte. Juste pour vous dire, il y a eu quelques coupures pendant l'émission à cause d'Internet. Voilà, c'est un peu compliqué. On est dans un bar, on envoie par un Wi-Fi téléphone. L'émission est enregistrée sans aucune coupure, donc il va falloir réécouter la rediffusion qui aura lieu le vendredi à 12h30 et lundi prochain et vendredi prochain. Et notre émission d'après sera le 12 novembre. Certainement au commerce encore, on va voir si Valérie a ses buts pour qu'on soit réaccepté dans ce bar, avec le thème « Fais-moi peur » et ce sera une émission déguisée. Donc nous serons tous déguisés pour « Fais-moi peur ». Merci à tout le monde. Claire et Marlène, je vous laisse la parole pour finir cette émission.
Oui, bonsoir du coup. La médiathèque départementale voulait juste rendre un petit hommage à un collègue qui est décédé malheureusement la semaine dernière. Et donc, ça nous tenait à cœur de lire un petit texte. Donc, c'est en plus un texte donc de Ahmed Kalwaz que nous avons eu la chance d'accueillir en 2012 pour des ateliers d'écriture en fait au collège Florac Trois-Rivières. Voilà. Donc, c'est un auteur qu'on connaît bien et qui, dans ce petit recueil de textes en fait, a fait plusieurs nouvelles sur le temps qui passe et sur il s'interroge sur la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Et en fait, il le fait dans plusieurs pays, dans plusieurs lieux, et donc en Lozère. Mais en fait, moi, j'ai sélectionné un petit texte qui a été validé par l'équipe, et que du coup, Claire va m'aider à faire, puisque c'est un dialogue.
On va le lire à deux voix.
Voilà. Tu as idée de ce qu'on fera demain?
Pas vraiment.
Et ça t'inquiète pas?
On a touché les hauts fonds.
Marco?
Oui?
Tu as le sens de l'expression?
Merci.
Je dirais même le sens de la formule.
Si tu le dis.
Au fait, Marco.
Oui, vas-y.
C'est privé, personnel pour tout dire.
Et alors?
Tu as déjà pensé à l'après?
Demain, tu veux dire?
Non, plus tard, à la fin.
La fin de quoi?
Quand on sera ailleurs.
Loin de cette plage?
Oui, bien après.
Je penserai à la fille qui vient de passer.
Laquelle?
Celle qui tenait sa robe relevée, là, pour éviter les vagues.
La robe bleue? Ah oui, je vois.
Eh bien, je penserai à elle.
Longtemps?
Le temps d'y penser.
Quand on sera après, alors?
Comment ça, après?
À la fin.
Mais quelle fin?
La nôtre.
Et pourquoi tu me parles de ça?
Parce que tu as le sens de la formule.
Et alors?
Tu pourrais m'en trouver une?
Je comprends rien, Olive.
Tu me charries, Marco.
Mais pas du tout, bah, explique-toi à la fin.
Justement, à la fin.
Tu recommences?
Bah, c'est le début, je t'explique.
Au fait, tu en penses quoi?
De quoi?
De la fille à la robe bleue.
Bien. Bague au doigt possible.
Tu crois?
Faudrait qu'elle soit d'accord.
C'est vrai, c'est le minimum.
J'ai trouvé!
Quoi?
Le mot, il était sur le bout de la langue.
Vas-y, crache!
Épitaphe.
Comment ça, épitaphe?
C'est le mot que je cherchais.
Et pourquoi donc?
Tu pourrais m'en trouver une.
Une épitaphe?
C'est exactement ça.
Mais tu es vivant, Olive.
Oui, mais ça va forcément arriver.
Quoi donc?
La fin. Et il m'en faut une.
Tu as le temps, je t'assure.
Marco, fais-moi plaisir.
Bon, en voici une.
Écoute.
Tu es un vrai ami.
Il a vécu comme un prince, il est mort comme un roi.
Tu es naze, vraiment.
Alors ça te va ?
On peut dire aussi que j'ai vécu comme un roi.
Oui, on peut, mais ça change quoi ?
Pour nous, rien.
J'ai autre chose. Il a offert son amour et ne l'a plus revu.
Non, pas ça.
Trop vrai ?
Je n'ai jamais rien offert à personne.
Vraiment ?
Vraiment.
Alors ça ? Aujourd'hui, je ne suis rien.
Trop définitif.
Bah, c'est un peu vrai quand même.
N'insinue rien. Autre chose ?
Tous les jours de l'été décline.
C'est bien ça, très bien.
Poétique, non ?
Peut-être trop pour moi.
Il faut savoir.
Fais un effort, s'il te plaît.
Je repose. Désespérément, je repose.
Marco ?
Oui ?
Finalement, je ne veux pas mourir.
C'est ce qu'il me semblait.
Quoi ?
Que tu préférais attendre la fin.
Merci à vous deux. Voilà. Merci aux amoureux des livres. On se retrouve le 12 novembre. Et qu'est-ce qu'on dit en fin d'émission de cette émission, Pauline ?
Au revoir.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.